Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est cette semaine que débutent en Europe les éliminatoires pour le Mondial de football 2022 au Qatar. L'attribution de cet événement planétaire il y a déjà plus de 10 ans continue à poser question sur des soupçons de corruption, sur l'opportunité de construire des stades climatisés en plein désert, sur le statut des ouvriers qui y ont travaillé et qui en sont morts, sur le traitement des femmes arbitres aussi. Cela fait beaucoup et des voix s'élèvent pour dire que cela fait trop et pour évoquer un boycott. Le Mondial Qatar 2022 peut-il être boycotté? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, 3 invités sont avec nous aujourd'hui par téléphone. Sabine Gagné, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de plaidoyer à Amnesty International France. Et aussi Nicolas Ksismartoff, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au magazine SoFoot et auteur du livre Terrain de jeu, terrain de lutte aux éditions de l'Atelier. Et enfin Jean-Baptiste Guégan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant et spécialiste en géopolitique du sport et auteur du livre Géopolitique du sport, une autre explication du monde, c'est aux éditions Bréal. Sabine Gagné, Amnesty International France n'appelle pas à boycotter le Mondial 2022, mais publie aujourd'hui un communiqué pour demander à la FIFA de faire pression sur le Qatar pour mettre fin aux abus dont sont victimes les travailleurs et travailleuses migrants sur place en termes de droits humains. Et il y a des engagements qui ont été pris par le Qatar. Ils ne sont pas tenus, selon vous?
Alors oui, effectivement, aujourd'hui, on appelle la FIFA à user de son influence sur les autorités qatariennes pour aider à mettre fin aux abus et aux violations dont sont victimes les travailleurs et travailleuses migrants au Qatar, parce que la FIFA a fait un certain nombre de déclarations, mais n'est pas allée au bout vraiment de tout ce qu'elle pouvait faire. Et aujourd'hui, on a vu, donc depuis 2017, que le Qatar avait mis en place un certain nombre de réformes, en tout cas elles étaient annoncées, mais sur place les conditions restent dramatiques pour les travailleurs migrants, donc on tient à mettre encore en lumière, le doigt sur cette situation extrêmement dramatique pour les travailleurs, et tout en effectivement n'appelant pas au boycott, parce qu'on pense que c'est cette attention internationale qui peut faire améliorer les choses sur place.
Oui, vous n'appelez pas au boycott, est-ce que je pourrais dire pas encore?
Alors, ça fait 10 ans qu'on nous pose cette question, et donc on a pour l'instant toujours la même réponse. On sait que d'autres organisations ont fait un choix différent et on le respecte tout à fait. Nous, notre rôle en tant qu'organisation de défense des droits humains, c'est de documenter ces violations de droits humains et d'appeler le plus possible à chacun au respect de ses obligations. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle chacun des acteurs, la FIFA, le Qatar, à s'engager vraiment pour la défense des droits humains. On est à plus d'un an et demi de la Coupe du Monde. On verra comment les choses se passent au fur et à mesure où on avance vers le tournoi. Mais pour l'instant, on pense que les choses sont encore améliorables.
Nicolas Ksismartoff, des appels au boycott, il y en a, notamment depuis cette enquête il y a quelques semaines du Guardian, le quotidien britannique, qui annonce plus de 6500 morts sur les chantiers de la Coupe du Monde. Il y en a des appels au boycott, notamment en Norvège. Certains clubs, et pas des moindres, trouvent que tout ça, ça fait beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu tout ça?
Après, les appels au boycott, ils viennent vraiment de petits points. Enfin, la Norvège n'est pas encore qualifiée, par exemple. Donc la question du boycott se pose moyennement. Mais ce qui se produit, c'est notamment depuis l'apparition de cette enquête du Guardian, qui n'est pas la première. Ça fait longtemps, ça fait depuis l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar qu'il y a des reportages, des documentaires, etc., et des organisations comme Amnesty qui alertent et documentent et fournissent des chiffres qui sont tous à peu près concordants sur le nombre de morts liés non seulement au chantier du Qatar, mais au chantier des stades, mais à l'immense chantier qui est devenu le Qatar à l'occasion de la Coupe du Monde. Donc il y a commence à y avoir une prise de conscience. Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin? C'est-à-dire qu'à un moment, ce que j'explique, il y a une espèce d'électrochoc quand on se produit dans le monde du football, de se dire, là pour le coup, c'est pas uniquement la question de la nature du régime, c'est pas uniquement la question de savoir si il y a trop d'argent dans le football, etc. C'est que devant autant de morts, autant de maltraitance, autant de discrimination, autant de problèmes, là pour le coup liés à quasiment droits humains, on n'est même plus dans les droits de l'homme, est-ce qu'il est encore possible d'imaginer d'aller jouer une Coupe du Monde. C'est ça qui commence à, cette petite musique qui commence à se faire entendre dans les, chez les clubs, dans des organisations de différentes natures et aussi dans l'opinion publique. Ça reste très faible et je pense que ça n'aboutira pas. Et, mais il y a quand même quelque chose qui se produit et on n'est vraiment pas sur les anciens schémas de boycott. Hein. Ça n'a rien à voir avec, par exemple, le boycott des JO de Moscou qui était lié à la géopolitique pure. On est vraiment sur quelque chose qui est lié à la vie interne du monde du football, à quel prix on peut tenir une Coupe du Monde. C'est pour ça que ça vient, par exemple, de clubs où qu'on commence à entendre des footballeurs ou d'anciens footballeurs à en parler. Voilà, c'est ce que c'est quelque chose d'interne au football. Est-ce qu'on peut jouer devant des pyramides de mort.
Jean-Baptiste Guégan, le Qatar a beaucoup misé sur le sport pour différentes raisons, notamment pour préparer l'après-gaz et pour exister sur la scène internationale. Ce genre de pression, est-ce que ça peut inciter le pays à changer peut-être un peu plus vite ?
Alors, changer un petit peu plus vite, faut peut-être pas exagérer, mais en tout cas, imaginez que ça leur mette une pression salutaire vu de l'extérieur, oui. Il faut imaginer que quand vous jouez une partie de votre stratégie sur la visibilité internationale et sur votre attractivité au travers justement d'une campagne tous azimuts, notamment passant par le sport, pour améliorer votre image, quand on touche à votre image, quand on et c'est tout le jeu justement d'Amnesty et des ONG, pas forcément vous prêtez attention. Donc soit vous donnez des gages, soit vous faites semblant d'en donner, bon, force est de constater que le Qatar est plutôt dans le faux semblant aujourd'hui, mais effectivement, oui, c'est une des stratégies, mettre la pression sur le Qatar pour que ça change maintenant. C'est au moins la certitude qu'ils écouteront ce qu'on a à faire valoir. Après, est-ce que ça changera véritablement et durablement ? Il y a beaucoup d'exemples qui montrent que toutes ces stratégies sont surtout temporaires. Le Qatar a une carte à jouer, vraisemblablement il la jouera. Il en sortira probablement grandi, il suffit simplement de se souvenir de ce qui s'est passé en Russie. On avait la même stratégie en Russie, on avait finalement le même positionnement avec finalement une situation des droits de l'homme qui était aussi catastrophique, et on a vu que en termes d'image internationale, la Russie était sortie plutôt grandie de cette histoire. On verra bien avec le Qatar, mais pour l'instant, on mieux rester modéré.
Sabine Gagné, du changement, notamment dans les droits des travailleurs étrangers, il y en a eu. La Kefala, notamment, c'est cette loi qui permet de retenir un travailleur dans une entreprise et dans le pays. On lui retire son passeport, tout simplement. Cette loi, elle a été retirée. Alors, je ne sais pas si c'est temporaire ou si c'est un faux semblant, comme le disait à l'instant Jean-Baptiste Guégan, mais c'est quand même plutôt positif. C'est plutôt bien, non ?
Alors, c'est plutôt bien, mais on attend de voir concrètement comment se réalisent les choses sur le terrain, parce qu'en réalité, ça a été des annonces. Ça a été annoncé en grande pompe qu'effectivement, c'était aboli. En réalité, alors la kafala, faut peut-être rappeler ce que c'est ce système de parrainage, en fait, qui oblige les employés à obtenir l'autorisation de leur employeur pour quitter le pays ou changer d'emploi. Et donc effectivement ça a été soi-disant aboli, mais en réalité les travailleurs sont encore beaucoup soumis à leur employé parce qu'ils doivent quand même obtenir un certificat auprès de leur employeur. Et un certificat de non-objection s'ils veulent changer d'emploi. Et il y a beaucoup d'employeurs qui, en réalité, refusent de délivrer ce certificat et les travailleurs sont obligés de terminer leur contrat, et ce qui peut encore leur prendre jusqu'à 5 ans. Les travailleurs qui quitteraient un poste sans la permission de leur employeur, ils peuvent être dénoncés comme étant des fuyards et ils peuvent faire l'objet de poursuites pénales. Et ça peut aboutir à leur arrestation, leur expulsion, et ça constitue une violation du droit international du travail. Il y a encore beaucoup d'employeurs aussi qui détiennent les passeports de leurs employés. Donc sur le terrain, en réalité, les choses n'ont pas véritablement changé. Donc là aussi, on a vu un grand effet d'annonce, peut-être pour satisfaire les pays qui allaient participer à la Coupe du Monde, mais sur le terrain, on n'a pas encore vu beaucoup de changements.
Nicolas Xismartoff, sur le plan footballistique, sur le plan de l'organisation, il y a eu récemment le Mondial des clubs au Qatar, et on a vu des images, notamment du traitement des arbitres femmes, qui interrogent quand même. Hein. Alors on sait, et puis ça a été rappelé largement depuis hier soir à la suite d'un documentaire en France, que c'est pas évident d'être une femme dans le milieu du sport, et notamment du football en Europe, mais là, ça semble encore plus compliqué, si j'ose dire.
Après, sur ces événements-là, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Le problème, une fois encore, c'est le choix du Qatar, c'est le choix de ce pays, pour plein de raisons. Alors, et moi, j'en ai celle qu'on est en train d'énoncer, qui est la plus terrible, c'est le sort des travailleurs et émigrés dans ces pays-là et dans cette zone en général, hein, mais dans ce pays-là en particulier. Et évidemment, il y a le cas de ceux qui travaillent sur les chantiers liés à la Coupe du Monde, mais il y a aussi celui des femmes de ménage chez les propriétaires, enfin, exactement pareil, Philippines, etc. Donc, il y a une multiplication de cas, donc ça permet malgré tout d'en parler parce que c'est un peu oublié en Occident. Mais le cas que vous évoquez est surtout plus intéressant, c'est quelle est la légitimité du Qatar à organiser une Coupe du Monde sur le terrain footballistique. Vous évoquez le cas du football féminin et on sait la situation et le statut des femmes dans ces pays-là qui appliquent de manière très rigoureuse en général pour certains aspects de la religion musulmane. Mais au-delà, c'est ce pays qui n'a pas de culture de football, qui est un pays qui n'a pas d'infrastructure, qui n'a pas de relation forte à l'histoire de ce sport, et qui en gros a acheté une Coupe du Monde auprès de la FIFA, et qui maintenant est en train d'essayer plus ou moins d'en faire ce qu'elle veut. C'est ça qui est problématique. Sur le cas des arbitres féminines, la FIFA peut rétorquer ce qu'a fait Infantino, mais on les a fait venir. On les a imposés quelque part au Qatar, qu'il y ait des arbitres féminines qui viennent arbitrer un match. Et c'est déjà un progrès. Donc c'est très complexe, en fait, cette question-là. Mais le vrai problème, c'est le Qatar. C'est le choix du Qatar qui est la démonstration qu'aujourd'hui, une Coupe du Monde s'achète. Et pas uniquement en termes de corruption, ça s'achète vraiment. Mais mécaniquement, on peut acheter un pays assez riche peut acheter une Coupe du Monde sans même se poser plus de problèmes que ça. Parce que d'autres pays du monde arabo-musulman, il était tout à fait légitime que des pays du monde arabo-musulman organisent une Coupe du Monde, étaient quand même un peu plus légitimes en termes d'histoire et de football, et même y compris sur la question du football féminin, que cet émirat.
Alors, Jean-Baptiste Guégan, il y a la réaction du Qatar, hein, mais il y a aussi, et puisque c'est elle qui est interpellée aujourd'hui par Amnesty International France, la réaction de la FIFA. Comment est-ce qu'elle réagit à toutes ces interpellations?
La FIFA, comme d'habitude, hein, c'est beaucoup de communication, très peu d'action. Elle voit, elle, ses intérêts, hein, c'est-à-dire il faut attendre que cette manifestation se passe de la meilleure des manières. Alors, elle avait essayé déjà d'interférer dans le cadre de la crise du Golfe qui opposait le Qatar à l'Arabie Saoudite en essayant de passer pour une institution faiseuse de paix. Là, on la voit en train de mettre ses plus beaux habits de défenseur des droits humains. Dans les faits, c'est surtout une institution qui est pilotée par une chose, hein, c'est la volonté de maximiser les gains, de maximiser l'audience du football. Et la question de l'éthique, de la morale et finalement des pratiquants du sport, et je ne parle même pas des conditions de vie des gens sur place, c'est loin d'être une de ses préoccupations. Donc aujourd'hui, voir la FIFA communiquer là-dessus, c'est parce qu'on lui tord le bras, et parce que les médias du monde entier, justement, bougés, aiguillonnés par les ONG et par des journalistes qui arrivent à se faire entendre, est bien obligé de regarder. Et elle se rend compte aussi de ses failles. Finalement, entre Blatter et Infantino, il y a eu un changement de tête, mais en termes d'action, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution.
Sabine Gagné, est-ce qu'il y a des discussions entre les différentes ONG sur ce sujet Qatar 2022 ça me vient comme ça. Donc Amnesty International France pour les droits humains, Anticor pour la corruption, Greenpeace pour le climat. Est-ce qu'on peut imaginer une sorte de front commun?
Alors, on travaille énormément avec les autres ONG d'une manière générale et sur ce sujet en particulier. Et il y a également Human Rights Watch qui a notamment fait des rapports sur les morts au Qatar également. Et donc, oui, on peut envisager des campagnes communes. Je crois que en fait, chacun, avec sa spécificité, est légitime et doit en fait dénoncer les différents abus, les différentes violations que chacun voit au regard de ses spécialités, le climat ou les droits humains, et donc tout ça est complémentaire. Par rapport à la FIFA, nous, ce qu'on a vu, c'est qu'ils avaient mis très longtemps à prendre ce problème des droits humains à bras-le-corps, parce qu'ils ont mis ils ont signé une politique droits humains quand même assez tardivement après l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Ils disent que la protection des droits humains au niveau international, c'est une priorité absolue. En réalité, nous, on a fait des dizaines de rapports sur les conditions de travail et de vie des travailleurs migrants, et notamment les questions du paiement des salaires, parce qu'il y a des travailleurs migrants qui n'étaient pas payés sur certains chantiers. Quand on a alerté la FIFA à ce sujet, ils n'étaient pas au courant. Et ça, pour nous, c'est un problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on appelle à ce que la FIFA, en fait, fasse des enquêtes et réellement agisse concrètement sur ces questions des chantiers, parce qu'ils ont tendance à considérer que tout ce qui est autour de la construction des stades, et donc qui va servir quand même à la Coupe du Monde, l'hôtellerie, tous les autres services autour, n'est pas de son ressort. Et donc, du coup, quand on les a alertés sur la situation de ces travailleurs de cette entreprise qui s'appelle Mercury Mena, ils ont dit ça ne nous concerne pas parce que le chantier n'est pas lié à la Coupe du Monde. Et ça, pour nous, c'est un problème.
Nicolas Xismartov, on a la réaction des autorités qatariennes, on a la réaction de la FIFA, mais les footballeurs, on en a vu certains qui s'engageaient pour des causes récemment, Antoine Griezmann pour les Ouïghours par exemple, ou Kylian Mbappé sur les violences policières. Est-ce que les footballeurs, ceux qui sont les plus connus en tout cas, est-ce qu'ils commencent à en parler ?
Écoutez, pour l'instant non. Avant d'en arriver aux footballeurs, je vous rappelle qu'il y a d'abord un gouvernement français, qui donne une délégation à une structure qui s'appelle la Fédération française de football, qui elle s'occupe de l'équipe de France. Donc il y a d'abord la fédération et le gouvernement qui, pour l'instant, moi j'ai écouté Noël Le Graët qui a expliqué, qui vient d'être réélu président, que c'était évidemment hors de question, de toute façon ça avait été décidé et qu'on irait, si on se qualifiait, il a évidemment mis cette condition sportive, et le gouvernement français, pour l'instant, sa seule ligne, c'est d'expliquer que le boycott n'est pas envisageable. Enfin, quand les rares fois on lui a posé la question, moi ça m'était arrivé il y a fort longtemps de demander à un ministre qui m'avait dit « mais vous n'y pensez même pas ». Donc voilà, je pense que c'est, il faut jamais mettre ça en place avant de demander des comptes aux footballeurs, expliquer que les organismes au-dessus d'eux, le gouvernement, parce que c'est des citoyens, les footballeurs, et la fédération, puisque c'est elle qui gère l'équipe de France, ont déjà tranché en faveur de la participation. Après, à titre individuel, c'est vrai que les footballeurs, ces derniers temps, il y a eu l'affaire du match du PSG en Champions League autour du racisme, où les footballeurs se sont retirés avec une prise de position assez courageuse de leur part et pour le coup réfléchie. De même, il y a Antoine Griezmann, mais Kylian Mbappé qui était intervenu sur la question des violences policières sur des terrains où on les attendait pas d'habitude. Donc là, on peut espérer que peut-être ils vont aussi s'interroger sur cette Coupe du Monde et leur participation, quelle que soit la façon dont ils le font. J'imagine mal des footballeurs de l'équipe de France de football, vu ce que représente une Coupe du Monde à la fois sportivement et y compris pour eux en termes de valeur qu'ils peuvent avoir ensuite au mercato, j'imagine mal qu'ils boycottent. Maintenant, il y a peut-être d'autres moyens de leur demander d'intervenir qui seraient proches de ce que recherche la ministre internationale pour faire pression sur les autorités qatariennes ou la FIFA, ce que je crois moyennement possible pour tout vous dire. Mais voilà, comment il y a une prise de parole, parce que leur parole sera écoutée au-delà, bien au-delà des cercles des ONG ou des journalistes nous avons une petite audience, mais pas si énorme que ça, et touchera les supporters et les fans de foot qui pourront peut-être regarder autrement ce que doit être un événement comme une Coupe du Monde de football. Et c'est là où ils ont peut-être un rôle à jouer. J'imagine mal un grand footballeur comme Kylian Mbappé ou un autre d'une autre nation boycotté. Enfin, on peut avoir toujours une bonne surprise. Ne serait-ce que, et je rappelle, les structures, qu'elles soient gouvernementales ou sportives, qui les chapotent, ont déjà tranché, ont déjà pris la décision d'y aller.
Oui, parce qu'une Coupe du Monde, évidemment, c'est deux maximum, ou grand maximum, trois ou quatre fois dans une carrière. Donc, évidemment, on n'a pas envie de gâcher ça. Jean-Baptiste Guégan, une constante avec la FIFA, c'est qu'elle ne veut pas entendre parler de politique ou de politisation du sport. D'ailleurs, aussi le cas avec le CIO.
Ah, effectivement, il y a ce fameux mythe de l'apolitisme du sport, hein, c'est-à-dire ces institutions et qu'on appellera à but non lucratif, hein, se cache derrière cette idée que le sport rapproche les peuples et que donc elles sont très loin de toutes ces considérations politiciennes et politiques. Bon, la réalité est différente. Et ce qui est intéressant aussi avec cette Coupe du Monde, comme ça va être le cas par exemple avec les Jeux de Pékin en 2022...
Les Jeux d'hiver, on précise, oui.
Voilà, les Jeux d'hiver. C'est que derrière, en vérité, ces Jeux sont utilisés par des États pour d'autres choses que le sport. On est très loin justement de tout ça, et je suis entièrement d'accord avec ce que disait Xismartov. C'est que derrière ça, on a des gouvernements qui font pas leur job, et qui devraient justement se servir de ça, enfin, en tout cas de ces attributions, et justement du fait que ces pays-là obtiennent ces jeux ou ces grandes compétitions, pour faire des relations internationales. Aujourd'hui, la France, même sur ce point-là, est en retrait. Et c'est fort dommageable. Bon, après, avec Jean-Michel Blanquer, il faut pas s'attendre à des miracles. Mais on aurait pu au moins imaginer une voix discordante, ou en tout cas comment dire, un cadrage. Bon, c'est un peu dommage parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la puissance sportive est une des composantes de la puissance globale. On le voit avec les investissements chinois, russes et même américains. N'oublions pas que la Coupe du Monde 2026 aura lieu majoritairement aux États-Unis. Et donc on est face ici à quelque chose qui dépasse de très loin le sport, qui est sous-estimé par nos gouvernants, ou en tout cas qui laisse gentiment de côté, en espérant que l'opium du peuple joue son rôle.
Sabine Gagné, je vais vous demander votre avis sur cet aspect qui a été soulevé par Nicolas Xismartoff et Jean-Baptiste Guégan. Vous vous êtes adressé à la FIFA pour qu'elle use de son influence sur le Qatar. Est-ce que vous envisagez de vous adresser aux autres gouvernements, des équipes par exemple qui seraient qualifiées à l'issue des éliminatoires ?
Absolument, et c'est d'ailleurs, on commence déjà à le faire, et on l'a fait déjà dès 2016, de nous adresser à la Fédération française de football. Donc on veut mettre la pression sur ces différents acteurs, et en particulier s'il y a des footballeurs qui commencent à prendre conscience de tous ces enjeux, on serait ravis qu'ils viennent demander et être aussi exigeant que les ONG et les journalistes sur cette redevabilité du Qatar en la matière.
Vous n'en comptez pas du tout encore dans vos rangs des footballeurs, disons, un peu connus, quoi.
Et on a été en contact avec certains footballeurs, notamment qui avaient eu des problèmes au Qatar, qui étaient restés coincés au Qatar. Mais aujourd'hui, non, on n'a pas de footballeurs de renom qui s'engageraient à nos côtés. Donc on les appelle à nous rejoindre absolument. Et en ce qui concerne les fédérations nationales, et c'est ce que fait chacune de nos sections au niveau européen, international, on les appelle à prendre leurs responsabilités parce que chacune d'entre elles a la responsabilité d'envoyer des équipes nationales, et donc d'une certaine manière elles ne doivent pas causer ni contribuer à ces violations de droits humains. Et à titre individuel, eh bien, chacun doit un peu faire ses devoirs et se renseigner sur les conditions de travail des travailleurs des installations qu'ils vont occuper, que ces équipes et ces footballeurs vont occuper lors de leur séjour au Qatar, et donc chacun en fait a une responsabilité. C'est pour ça qu'on n'appelle pas au boycott, mais en fait dès aujourd'hui ils peuvent se renseigner sur les conditions de travail des infrastructures qu'ils vont occuper.
Nicolas Xismartoff, vous avez déjà un petit peu répondu, mais est-ce qu'on pourrait imaginer que des fédérations, des sélections qui se sont battues pour se qualifier en cas de qualification sur le terrain ne se rendent pas sur place pour des raisons de politique ou de boycott tout simplement? Ça vous paraît imaginable? Est-ce que, d'ailleurs, je vais vous demander votre opinion, est-ce que vous l'espérez un peu quelque part?
Voilà, beaucoup de questions, mais on va commencer par la réalité. Non, ça n'arrivera pas. Voilà, donc il faudrait vraiment qu'il se produise un cataclysme local, mais c'est pas impossible, hein, vu la région. Je rappelle, et ça a été souligné, que le Qatar sort d'une crise diplomatique importante avec son principal voisin qui est l'Arabie Saoudite. C'est pas franchement une des zones les plus calmes et stables du globe. Donc ça c'est pas impossible. Mais sinon, je vois mal une fédération d'un pays qualifié pour la Coupe du Monde, ne serait-ce que parce que la FIFA peut prendre des sanctions très lourdes contre eux après. D'exclusion définitive de leur club, des compétitions européennes ou des compétitions sportives ou de toute autre compétition internationale. Enfin, il peut y avoir des retours très longs, très lourds contre les fédérations qui prennent cette décision. De plus, c'est vraiment pas la culture, pour le coup, politique, entre guillemets, de ces fédérations que d'avoir ce courage-là. Ça n'est jamais arrivé. Maintenant, est-ce que je l'espère? Moi, j'espère juste qu'en France, qui est un pays, moi, je me cantonne à ce qui est le cas de celui où je vis, en France, dans mon pays, on a une passion pour la politique, et je rappelle que notre ministre des Sports a signé un texte de ministre des Sports européen appelant les organisations comme la FIFA ou etc. ou le CIO à inscrire le respect des droits humains dans les conditions d'organisation des compétitions internationales. C'est un texte qui a été signé par tous les ministres des Sports européens. Moi, j'aimerais que dans mon pays, cette question-là devienne une question de société, qu'on se la pose, qu'on la pose en termes de débat à l'Assemblée ou ailleurs. Je sais que ça a commencé un petit peu à se faire et qu'il y a une vraie réflexion commune des forces politiques et notamment le gouvernement, avant même de poser la question à la fédération qui, après tout, derrière quoi se réfugie Noël Le Graët, applique ce que sa tutelle politique décide. Et ensuite, le deuxième échelon, les citoyens, les footballeurs sont des citoyens. Moi, j'aimerais qu'un footballeur, un grand footballeur, mais qui a Mbappé, par exemple, joue au PSG, qui appartient au au Qatar, des grands footballeurs décident d'eux-mêmes, par leur parole, leur force, de dire il y a des moments où l'éthique personnelle est plus importante que de remporter une Coupe du Monde. C'est un mot que j'aimerais entendre, et je ne parle pas là uniquement pour le cas du Qatar, mais que ce soit un message qui porte à l'avenir. J'y crois pas. Voilà. J'aimerais, j'y crois pas. Je connais la réalité du monde du football aujourd'hui, c'est fort peu probable.
Oui, parce que Jean-Baptiste Guégan, on va le rappeler quand même, le Qatar, c'est pas juste au Qatar, c'est un petit peu partout dans le monde, et notamment au PSG.
Alors oui, effectivement, oui, c'est le propriétaire via Qatar Investment Authority du Paris Saint-Germain, et puis c'est surtout un des plus gros investisseurs finalement du golf. C'est un partenaire majeur de notre pays, et donc au-delà du sport, il y a d'autres intérêts qui jouent. Le sport est un moyen de faire de l'entrisme, c'est un moyen aussi de peser dans les décisions des États et dans les relations qu'on entretient avec eux. Donc aujourd'hui, le sport, c'est la face finalement visible d'un iceberg beaucoup plus important, hein, qui est fait de d'achats de participation dans les groupes du 440 pour ce qui est de la France, de prise de position dans quasiment tous les secteurs qui comptent en France. Et donc, on imagine mal le gouvernement français aller à l'encontre du Qatar, pour des raisons évidentes. Et malheureusement, bah, ça va avoir un impact sur la fédération, parce que si la fédération derrière avait un gouvernement capable de se positionner par rapport au Qatar, peut-être que, alors je crois pas en Noël Le Gret et à sa capacité de changement, hein, mais peut-être qu'on aurait justement un positionnement institutionnel différent et ça libérerait la parole des footballeurs. Quand on voit par exemple la prise de position de Griezmann sur son partenariat avec Huawei et la question des Ouïghours, c'est bien, mais c'est la Chine, c'est facile de taper sur la Chine. C'est plus compliqué quand vous avez mal à partir avec votre principal
employeur.
Patron. Et employeur, le pauvre Kylian Mbappé, c'est finalement on aura du mal à peser. On imagine mal Neymar aussi expliquer, surtout s'il reste au Paris Saint-Germain et s'il prolonge, que le Qatar pose des problèmes. Donc aujourd'hui, on est confronté aussi à quelque chose qui est assez dommageable. C'est qu'on regarde le footballeur, on lui demande finalement de prendre position, là où finalement on n'attend rien des États et où on laisse couler. Et là, c'est aussi le citoyen de peser hein, dans le vote, dans des campagnes citoyennes, auprès d'ONG, pour justement que ça change. Moi, je suis assez sidéré du silence complet de Jean-Michel Blanquer. Alors, on sait qu'il est capable, sur les questions d'éducation, d'être très très loin des vrais sujets. Mais sur les questions sportives, il est étonnamment silencieux, il est juste dans la célébration. Très bien qu'à un moment donné, ils mettent aussi les deux pieds dans ce qu'on appelle la politique, la vraie.
Une question pour vous relancer, Jean-Baptiste Guégan. Le rapport bénéfice-risque, c'est-à-dire entre tout ce qui est positif et tout ce qui est un petit peu ennuyeux, il est encore largement positif à la fois pour la FIFA et pour le Qatar dans cette affaire ?
Oui, parce que finalement, on va avoir une Coupe du Monde qui vraisemblablement, enfin souhaitons-le nous, sera post-Covid. Donc on sera dans la Coupe du Monde de la célébration. On sera dans une Coupe du Monde finalement où oui, il y aura toutes ces questions environnementales, sociétales, etc. Mais dès que le ballon va commencer à rouler sur la pelouse, on va retrouver nos instincts de supporters. Et puis pendant 4 semaines, il suffit que la France soit capable de performer comme en Russie. Et puis on oubliera ce qui s'est passé en Russie avec la question des homosexuels. On oubliera ce qui s'est passé avec la question des opposants politiques. Et puis on y repensera peut-être 2 ou 3 ans après, avec la figure de Navalny. Bon bah là, pour le Qatar, ce sera pareil. Je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions, hein, malheureusement, le sport va toujours l'emporter parce que c'est plus facile de suivre un match que de réfléchir aux relations internationales. Et aujourd'hui, malheureusement, avec cette Coupe du Monde, il y a quand même de grandes chances que le bénéfice soit encore là et que les risques, en tout cas les menaces sur l'image du Qatar, ne soient pas suffisantes pour que les choses bougent vraiment.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Guégan. Je rappelle que vous êtes enseignant et spécialiste en géopolitique du sport. Merci également à nos autres interlocuteurs, Nicolas Aksis-Martoff, journaliste au magazine SoFoot, et à Sabine Gagné, chargée de plaidoyer à Amnesty International France. Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Emmanuel Sevin à la documentation et à la réalisation, aujourd'hui Laurent Philippot. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter et nous podcaster sur les réseaux sociaux, sur nos applications mobiles ou sur notre site internet rfi.fr. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Dans quelques instants, l'info revient sur RFI. Prenez soin de vous et des autres. Bonjour chez vous.
Venez participer virtuellement au festival.